Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. S'il vous manque des clés pour décrypter les sujets que nous traitons à l'antenne, surtout n'hésitez pas, appelez-nous ici à Paris et nos experts au sein de la rédaction, nos correspondants, nos envoyés spéciaux vous répondent en direct 33 9 693 693 70. Vous pouvez également nous envoyer vos questions sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook, la page officielle RFI Appel sur l'actualité. Et puis dans 30 minutes, vous nous raconterez votre rentrée scolaire. Vous êtes parents d'élèves ou enseignants, nous vous donnons la parole ce matin. Depuis le début de la semaine, dans de nombreux pays d'Afrique francophone, les élèves reprennent le chemin des écoles, des collèges et des lycées. C'est le cas notamment ce matin au Sénégal. Une rentrée parfois perturbée, notamment en Guinée où les enseignants sont en grève, tout comme au Tchad où les élèves ont trouvé porte close. Au Gabon, tenez-vous bien, une fake news, une fausse circulaire du ministre de l'Éducation annonçant le report de la rentrée a circulé sur les réseaux sociaux. Le gouvernement a démenti cette fausse information, mais le constat est là. Depuis lundi, très peu d'élèves sont en cours. Donc, appelez-nous, racontez-nous votre rentrée scolaire. 33 9 693 693 70. Mais d'abord, donc, vos questions. Le premier auditeur nous appelle de Dakar. Khadim, bonjour.
Oui, bonjour Juan et bonjour à tous votre fidèle auditeur.
Merci de votre fidélité. Vous avez des questions sur la nouvelle mairesse de Dakar, la capitale sénégalaise.
Voilà, Soham El Ouardine a été élu nouveau maire de la capitale sénégalaise en succession à Khalifa Sall. Cette femme, je ne la connais pas et j'aimerais savoir deux choses.
Oui.
D'abord, pourquoi elle n'est pas Moussa Sy en succession à l'ancien maire de Dakar?
Ah, pourquoi elle et pas Moussa Sy, qui visiblement était peut-être votre préféré. Guillaume Thibault, bonjour.
Bonjour à tous.
Correspondant permanent de RFI à Dakar, Soham El Ouardini est la première femme à diriger la capitale sénégalaise. Elle a été élue pour remplacer Khalifa Sall, qui, rappelons-le, a été condamné en appel pour escroquerie portant sur des deniers publics, révoqué à la fin du mois d'août. Pour expliquer justement cette succession, Guillaume Thibault, il faut peut-être parler de la fidélité de Soham El Ouardini envers Khalifa Sall.
Exactement, Juan, une fidélité affichée encore samedi, après son élection. Je considère que Khalifa Sall est toujours le maire de Dakar, a expliqué Soham El Ouardini. Une fidélité affichée dès le début des problèmes judiciaires de Khalifa Sall en 2017. Une fidélité au final sans faille. Alors, on peut le dire qu'ils ne viennent même pas du même parti politique. Et c'est une alliance politique qui a permis l'élection de Khalifa Sall à la mairie de Dakar. El Ouardini a pris concrètement la succession de Khalifa Sall en mars 2017, quand il a été placé en détention. Car elle était la première adjointe, et c'est la loi, c'était à elle de prendre cette succession, de prendre l'intérim à la mairie. Et depuis, elle a toujours déclaré être dans la lignée de l'ex-maire, elle a toujours vanté son bilan, ses compétences, sa gestion. Elle a d'ailleurs, et peu l'ont fait, accepté aussi de venir témoigner lors du procès de Khalifa Sall. Elle n'a jamais coupé les ponts avec lui, elle est allée le voir plusieurs fois par semaine à la prison de Rebeus, elle n'a jamais pris de décision sans son accord. Au final, retour d'ascenseur politique logique, Khalifa Sall a choisi naturellement de lui apporter son soutien lors du vote samedi dernier à la mairie. Soham El Ouardini est donc fidèle. Notre auditeur Radim citait Moussa Sy, oui. Et le voyait bien succéder à Khalifa Sall. Moussa Sy veut cette succession. Il a annoncé justement hier qu'il rejoignait la majorité présidentielle de Macky Sall, l'APR, l'Alliance pour la République, en vue de l'élection municipale, mais celle qui est prévue dans un peu plus d'un an, fin 2019. Les liens entre Moussa Sy et Khalifa Sall se sont effrités depuis le placement en détention de l'ex-maire. Moussa Sy n'est pas le seul à avoir rejoint le pouvoir. Pour Khalifa Sall, Soham El Ouardini fait donc partie des fidèles parmi les fidèles. Et c'est pour ça, peut-être aujourd'hui, qu'elle est maire de Dakar.
Oui, maire de Dakar, elle a été élue dès le premier tour en recueillant 64 des 90 voix que compte le conseil municipal. C'est donc une large victoire pour Soham El Ouardini. Vous aviez une dernière question, Khadim?
Jusque-là, quel a été le parcours politique de cette femme?
Alors, le parcours, Guillaume Thibault.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur Souham Al-Wardini? Elle a 65 ans. Officiellement, sa carrière politique a débuté lorsqu'elle avait 46 ans. Elle était professeure d'anglais, Souham Al-Wardini, quand elle s'est lancée en politique. Et il y a un peu moins de 20 ans, elle a rejoint Moustapha Niass, que les Sénégalais connaissent très bien, qui est le leader de l'Alliance des Forces du Progrès. Mais ses proches indiquent qu'elle a toujours milité dans son quartier, dans la ville de Kaolack où elle a grandi. À la mairie, les élus la présentent comme une politique très accessible, à l'écoute notamment des plus jeunes, mais également des membres de l'opposition. Une femme qui fait et qui est capable de provoquer le consensus, un trait de caractère que l'on a vu samedi, hein, puisque vous le disiez, elle a été élue largement maire de Dakar. Les deux autres candidats, dont Moussassi, ont récolté des miettes. Un petit point sur l'ambition affichée par Souham El-Wardini pour ces 14 mois qu'elle va passer à la mairie de Dakar. Elle veut, elle l'a dit, nettoyer la capitale, rendre à Dakar son lustre d'antan. Une fibre écologique, une qualité, il faut dire, Juan, qui est rare au sein de la classe politique sénégalaise.
Voilà Khadim pour les explications de notre correspondant permanent à Dakar, Guillaume Thibault. Bonne journée Khadim.
Merci Juan.
À bientôt et continuez à écouter RFI sur les 92 FM sur place. Binta Diagne du service Afrique de RFI est à mes côtés. Bonjour Binta.
Bonjour Juan. Bonjour.
On vous a demandé de venir car vous suivez depuis Paris, mais vous suivez le procès à la Cour pénale internationale de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, poursuivi, rappelons-le, pour crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Je me fais le porte-parole de Samuel qui est à Abidjan. Il ne répond plus sur les nombreux numéros de téléphone qu'il nous avait donnés au standard. La question est intéressante, donc je vous la pose, Binta. Pourquoi les avocats de l'ancien président demandent un acquittement alors que les témoins de la défense ne se sont pas encore exprimés? Alors, on rappelle tout de même qu'hier, il y a eu ce petit rebondissement puisque l'audience a été suspendue. Elle ne reprendra que le 12 novembre pour permettre aux avocats de la défense de préparer leur réponse. Les avocats de Laurent Gbagbo qui, effectivement, vont plaider l'acquittement de leur client. Samuel a raison tout de même de s'étonner qu'il plaide l'acquittement avant même que les témoins de la défense aient été entendus.
Ouais, c'est vrai que c'est pas courant pour des auditeurs qui sont francophones et qui du coup n'ont pas l'habitude de voir des procès s'arrêter comme ça à mi-chemin. Mais là, ce qu'il faut se bien garder à l'esprit, c'est que ce procès-là, il est régi par les règles de la common law, donc le droit anglo-saxon. Et du coup, ça fait partie, en fait, c'est prévu dans ce procès-là. Pour rappel, le procès a commencé le 28 janvier 2016. C'est d'abord le procureur qui a pris la parole dans un premier temps. Il a fait un long discours pour expliquer les charges, redonner le contexte de la crise post-électorale et expliquer pourquoi il parle de crimes contre l'humanité. Et après ça, pour déployer son argumentaire, il a présenté ses témoins
82,
à la barre. 82 témoins qui ont défilé à la barre. Ça a duré très longtemps, ça a duré 2 ans au total. Et à l'issue de la présentation de ces témoins-là, donc ça remonte à janvier, le juge a dit « Maintenant, ok, vous avez terminé, faites un résumé de toute votre argumentation. » Donc, mi-mars, le procureur fournit à la cour, à la chambre d'accusation, un plaidoyer, enfin, un résumé de tout ce qu'il a argumenté depuis le début du procès, les 2 années de procès.
Oui.
À l'issue du rendu de ce mémoire-là, la défense le lit et n'est pas forcément convaincue par les arguments présentés et se dit « Non, moi je ne peux pas présenter mes témoins. À ce stade-là, cela ne m'a pas convaincu.
Les preuves apportées jusqu'à présent ne permettent pas d'établir la responsabilité de mon client. Voilà ce que disent les avocats de Laurent Gbagbo.
Et dans le droit anglo-saxon, il est permis du coup aux avocats de la défense de plaider l'acquittement dès ce stade-là du procès. C'est comme une sorte de pause au milieu du procès. Donc, après, il y a beaucoup de procédures qui se mettent en place. Les avocats de la défense font eux-mêmes un mémoire pour expliquer leur argumentation, ce qu'ils ont fait cet été. Mmh. Et à l'issue de la remise de ce mémoire-là, maintenant, il y a des audiences orales pour expliciter ces argumentations-là. Et c'est ce qu'on assiste en ce moment.
D'accord. L'audience qui a donc...
Donc l'audience qui a commencé lundi, c'était lundi. D'abord le procureur qui expliquait pourquoi lui, il veut continuer le procès. Et ce qu'on va voir à partir du 12 novembre, c'est la défense qui dit pourquoi il n'y a pas eu crime contre l'humanité, pourquoi il n'y a pas suffisamment de preuves pour dire qu'il y a eu crime contre l'humanité. Maintenant, c'est difficile de voir combien de temps ça va durer.
Ouais, ça peut durer des mois.
Ça peut durer des mois.
Effectivement. Merci beaucoup, Binta, d'être venu répondre à Samuel. J'espère que Samuel a pu vous entendre. Vous souhaitiez rajouter quelque chose?
Oui, parce que la deuxième question de Samuel me semblait-il porter sur les chances.
Ah oui, les chances. Oui, il nous demandait effectivement quelles étaient les chances que cette demande soit acceptée.
Donc la demande en tant que telle, elle a été acceptée. Elle a été validée par le juge d'instruction. Maintenant, quelles sont les chances que cette demande-là aboutisse? Et ça, ça va donner un procès peut-être à... Soit le juge, après les audiences du 12 novembre, est convaincu et prononce l'acquittement, soit le juge n'est pas convaincu. Et à ce moment-là, en fait, le procès reprend son cours normal. La défense présente ses témoins pour pouvoir étayer sa thèse de la non-responsabilité de Laurent Gbagbo et Charles Blégoudé. Suite aux charges qui seront confirmées ou pas.
Et là, si le procès reprend, on en a facilement pour au moins deux ans. Merci Binta, merci beaucoup de ces précisions. Samuel, on vous souhaite une bonne journée à Abidjan. 33 9 693 693 70, il est 10h20 à Paris, on poursuit avec vos questions. Et comme promis, et avec toutes nos excuses pour Bruce hier, qui nous appelait de Djamena, qui patientait au standard, hier on a été un peu bavard avec nos différents experts ici dans le studio, et bien nous avons rappelé Bruce ce matin. Bonjour.
Bonjour Juan.
Bienvenue, merci de votre patience. Vous avez des questions sur la Catalogne. Un an après le référendum d'autodétermination, référendum, faut-il le rappeler, interdit par Madrid.
Exactement. Un an après le référendum, la relation entre Madrid et la Catalogne se sont-elle améliorée? Y a-t-il un changement avec l'arrivée de Pedro Sánchez à la tête du gouvernement espagnol?
C'est vrai, c'est une question pertinente, hein, Bruce, que vous posez, puisque c'est vrai que un an après, on voit bien que les responsables politiques ont changé. Pedro Sánchez est désormais le chef du gouvernement espagnol. Il a remplacé le conservateur Mariano Rajoy. Carles Puigdemont, lui, rappelez-vous de ce nom, on en a beaucoup parlé, l'ancien président de la Catalogne, est en exil en Belgique. Il a cédé sa place à une autre personnalité indépendantiste, Quim Torra. Jean-Marc Sánchez, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Infiniment désolé pour hier. Hein. On a été un peu bavard, donc merci d'avoir encore pris quelques minutes ce matin pour être avec nous sur l'antenne de RFI. Vous êtes avocat franco-espagnol au barreau de Madrid et de Paris. On se souvient, Jean-Marc Sánchez, il y a un an, le gouvernement espagnol avait mis la Catalogne sous tutelle. Le Parlement avait été dissous, le gouvernement régional destitué. De nouvelles organisations, de nouvelles élections régionales ont été organisées. Est-ce que les relations se sont amélioré entre Madrid et Barcelone depuis?
Entre Madrid et Barcelone, les relations se sont détendues. Mais en revanche, la situation est à peu près toujours la même. Vous disiez à l'instant que le référendum du 1er octobre 2017 avait été interdit, tout simplement parce qu'il était illégal. Et le 1er octobre 2018, c'est-à-dire lundi dernier, de nouvelles manifestations ont eu lieu, et cette fois violentes, entre ceux qui étaient pour et ceux qui sont contre l'indépendance. Alors, vous l'avez rappelé, il y a de nouveaux acteurs sur la scène politique. Le président du gouvernement, comme on l'appelle en Espagne, l'équivalent du Premier ministre en France, n'est plus Mariano Rajoy, mais Pedro Sánchez. Or, Pedro Sánchez n'a pas été élu. Il a simplement bénéficié d'une motion de censure, d'une motion de défiance, comme on dit en Espagne, qui a fait chuter le gouvernement de Mariano Rajoy. Mais aujourd'hui, il est prisonnier de ses alliances, notamment avec les partis régionaux et en particulier avec les partis indépendantistes catalans, au premier rang desquels PDeCAT, le parti de Carles Puigdemont, l'ancien président du gouvernement catalan. Vous rappeliez qu'il est en exil, pour certains en fuite, pour d'autres en Belgique, et qu'il continue son offensive contre Madrid depuis son exil bruxellois. Et Quim Torra, son successeur, qui est un indépendantiste déterminé et qui a demandé hier à Pedro Sánchez de s'asseoir à la table des négociations pour envisager toutes les options et notamment celle de l'autodétermination de la Catalogne.
Ce que, à mon avis, Pedro Sánchez refusera, puisque Pedro Sánchez, lui, il se contente de respecter la Constitution espagnole.
Oui, mais son gouvernement ne tient que parce qu'il est allié avec une multitude de partis, on en a dénombré au total 14, entre les partis centraux et les partis régionaux, et notamment les nationalistes basques et catalans. Il a moins de sièges aujourd'hui au Cortés, au Parlement espagnol, que n'en a le Parti populaire, le parti qu'il a battu à l'occasion de cette motion de censure et qu'il l'a porté au pouvoir de façon tout à fait inattendue le 1er juin. Il va y avoir des élections municipales l'année prochaine et il risque aussi d'y avoir un nouvel acteur dans ce jeu complexe qui se joue entre Madrid et Barcelone. C'est la candidature inattendue et pas forcément aussi surprenante que certains veulent bien le dire, de l'ancien Premier ministre français Manuel Valls.
Passionnant. En tout cas, les prochains mois s'annoncent très intéressants. Jean-Marc Sanchez, merci infiniment d'avoir été avec nous, nous avoir expliqué justement la politique entre Barcelone et Madrid, avec effectivement tous ces changements de responsables politiques, aussi bien la tête de Madrid que de Barcelone, depuis un an. Bonne journée à tous les deux. Je le voyais discuter il y a encore quelques secondes en coulisses avec l'équipe technique. Il est là, physiquement, à mes côtés. Bonjour Olivier Pron.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous.
On va vous ouvrir le micro. Bonjour Olivier Pron.
Ah ben là, je recommence. Voilà. Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous. Et le petit ricanement qui va avec.
Vous ne changez pas, Olivier. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir dans cette émission. Journaliste au service des sports de RFI. Et pour une fois, nous n'allons pas parler football. Nous avons une question Formule 1. Bonjour Sadio.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Saint-Louis. Nous vous écoutons avec Olivier Pron.
Merci. J'ai eu un petit problème à suivre le Grand Prix du samedi dernier en Russie,
oui.
Lorsque l'écurie Mercedes a demandé à Bottas de laisser passer Hamilton. Alors, ma question, c'est un peu comment expliquer une telle décision de la part de l'écurie Mercedes.
Effectivement, décision surprenante, Olivier Pron. Valtteri Bottas, qui aurait dû terminer premier du Grand Prix de Russie, termine finalement second, parce qu'il a reçu l'ordre de son équipe Mercedes de s'effacer au profit de Lewis Hamilton.
Surprenante parce que vous ne suivez pas la Formule 1. C'est pour
vrai.
Ça qu'on est content d'avoir une question de Formule 1. Ça existe depuis la nuit des temps. Quand n'existait pas, vous aviez Prost Senna et les deux pouvaient tellement pas s'encadrer qu'ils finissaient dans le bac à sable parce que l'un ne voulait pas laisser passer l'autre lorsqu'ils étaient dans la même équipe.
Bien sûr.
Là, vous avez... alors, je vous l'accorde sportivement. C'est désolant,
bah oui.
Mais ça existe depuis fort longtemps. Vous avez Lewis Hamilton, il est le pilote numéro un de l'équipe. Il est 4 fois champion du monde, 2008, 2014, 2015, 2017. Il est le champion du monde en titre. Mmh. Il est en tête, là, au moment où on se parle, à 5 Grands Prix de la fin du championnat du monde. Bah, son équipe, elle veut qu'il assure cette place. Et donc, elle dit à Bottas, qui lui est très très loin au classement du championnat du monde, tu laisses passer Lewis Hamilton, c'est le leader. Et en numéro 2, non seulement il est numéro 2, mais il a pour charge d'empêcher de passer les autres. Ou en tout cas de les freiner. Mmh. Notamment Sébastien Vettel, qui est le seul concurrent encore capable, il faudra un miracle, il a 50 points de retard, mais encore capable avec sa Ferrari, d'aller empêcher Hamilton de décrocher un 5e titre de champion du monde.
Donc, Mercedes
c'est
a
une consigne d'équipe assumée.
Lewis Hamilton et sacrifié Bottas.
Alors, c'est une consigne d'équipe assumée. J'ai relevé les déclarations des 3 acteurs du week-end. Bottas, en conférence de presse après Grand Prix, dit « Résultat idéal pour l'équipe, pas pour moi
ouais. ».
Bon, il affiche clairement sa déception, bien sûr, il avait remporté le Grand Prix l'année dernière. Vettel, qui est le premier aussi lésé, puisque lui, il se bat, il dit « En me mettant à leur place, c'est un choix évident, donc toutes ces questions autour de cette stratégie, elles sont injustifiées. » Et enfin, Lewis Hamilton, lui, dit « Peu de coéquipiers feraient une chose pareille. »
Ah oui, donc solidarité avant tout au sein d'un groupe. Mercedes et surtout Lewis Hamilton a donc de fortes chances d'être sacré pour la 5e fois champion des pilotes.
Il vise les deux. Mmh. Alors là, il profite. Il pourrait très bien terminer Bottas 1, Hamilton 2. Ça leur rapporte le même nombre de points. Ils seront champions du monde des constructeurs. Mais ils veulent assurer aussi le titre des pilotes. Ils veulent le doubler. Mmh. Alors encore une fois, c'est choquant. Oui, sportivement, on peut en discuter. Mais ça existe depuis toujours. Il y a toujours un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2. Et Hamilton est même le pilote numéro 1 du plateau en général, puisqu'il va être sans doute champion du monde pour la 5e fois.
Prochain Grand Prix, dimanche, je crois, au Japon.
Dimanche au Japon, oui, il en reste 4 après. En tout, il en reste 5. Encore une fois, on vous l'a dit, 50 points d'avance sur Sébastien Vettel.
Les jeux sont
Mercedes
faits.
A sans doute pris un gros ascendant sur Ferrari.
Sadio, a-t-on répondu à votre question? Êtes-vous satisfait des explications d'Olivier Pron?
Mais très clair, oui.
C'est très clair. Bah oui, c'est très clair, parce que moi-même, n'y connaissant rien en Formule 1, j'ai tout compris.
Mais vous m'invitez pour ça.
Merci Olivier Pron.
Mais je vous en prie.
Bonne journée à vous. Sadio, belle journée à Saint-Louis, au Sénégal, où il est 8h et bientôt 30 minutes. On va retrouver dans un instant l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin. Et tout de suite après, vos témoignages, vos réactions sur la rentrée scolaire depuis le début de la semaine. Vos enfants, vous qui nous écoutez en Afrique francophone, retournent sur les bancs de l'école, retournent théoriquement, puisqu'on l'a bien vu au Tchad. Les enseignants sont en grève, tout comme en Guinée. Au Congo-Brazzaville, les parents, n'ayant pas perçu à temps le salaire du mois de septembre, n'ont pas pu acheter le matériel nécessaire pour les enfants. Donc du coup, beaucoup d'enfants sont absents depuis lundi des classes au Congo-Brazzaville. Bref, les témoignages ne manquent pas. Nous en parlerons tous ensemble dans tout juste 10 minutes.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.